Les colloques du Collège de France.
Et voici venu le temps des conclusions. Après ces deux jours de débats, d'échanges passionnants, notre idée ici n'est pas de faire de longs discours, mais nous avons souhaité redonner la parole aux collègues qui ont très gentiment accepté de prononcer ce qu'on appelle en anglais des keynotes, des discours clés, hein, c'est comme ça qu'il faut les prendre, au cours de ces deux jours pour revenir sur nos débats, en tirer quelques éléments de substance et puis réfléchir à l'avenir. Et donc je commencerai en posant la même question à tous les intervenants ici réunis, la première étant très simple. Quelle est l'idée principale, forte, majeure que vous retenez des deux jours que vous avez passés ici? Les 48 heures que vous avez passées avec nous avaient-elles une quelconque utilité? Et qu'en retiendrez-vous dans les semaines, les mois, les années à venir? Je vais commencer par Christian Delacroix. Merci.
Alors, c'est un peu difficile, évidemment, puisque tellement le colloque est riche. Mais je... J'ai choisi un thème que la deuxième journée m'a encore incité à choisir, que j'avais abordé dans ma conférence. C'est le thème du nationalisme méthodologique associé à la question de l'eurocentrisme. Parce que j'étais frappé, bon, il se trouve que je travaille un petit peu en ce moment aussi sur l'histoire de l'Europe, loin de la phase polémique, de la réception que j'avais rappelée, bon, qui garde toute sa signification d'ailleurs, hein, mais loin de cette phase trop polémique, je constate quand même qu'il y a cette interrogation persistante sur est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber dans une exaltation de la nation ou dans le nationalisme méthodologique. Et je le retrouve... C'est tout à fait parallèle à ce qui se passe avec l'histoire de l'Europe et l'eurocentrisme. Et l'intervention de Bernard tout à l'heure a bien montré, hein, cette fameuse date, vous l'avez tous vu, de 1990, hein, c'est-à-dire le moment où les critiques anti-eurocentriques se radicalisent. Alors elles sont anciennes, hein, il y a les approches postcoloniales, il y a évidemment le livre de Saïd et ensuite Chakrabarti, bien sûr. Mais dans les bilans historiographiques qui sont faits sur la question de l'histoire de l'Europe, hein, il y a cette coupure de 90 où ces critiques se radicalisent. Donc c'est un thème, je crois que tous ceux qui travaillent sur les histoires mondiales des nations doivent assumer et affronter, en relation, je crois, avec la question de l'eurocentrisme, tant, je l'ai dit dans mon intervention, nationalisme méthodologique, c'est-à-dire le privilège donné au cadre national et eurocentrisme sont liés. Quand vous lisez beaucoup d'histoire de l'Europe, hein, ce que j'ai essayé de faire, on est frappé par le fait que beaucoup d'histoire de l'Europe sont en fait des juxtapositions de développements nationaux, y compris quand ils abordent des thèmes communs. Bon, je ne sais pas, sur l'impérialisme, ben vous avez à chaque fois pays par pays, pendant longtemps. Alors ça a changé, bien sûr, hein, ce n'est plus le cas, etc., mais ça a été longtemps le cas. Donc ce retour sur cette question-là, je trouve, est très intéressant, d'autant plus qu'il y a le fameux lien qui a été établi par beaucoup entre construction de l'État national, de l'État-nation, pardon, et... construction de l'histoire comme discipline scientifique, qui se veut scientifique, hein, d'où l'interaction entre les deux processus, en oubliant, avec ce que j'appellerais le retour de l'Empire, enfin le retour historiographique de l'Empire, on voit bien que ces romans nationaux, ces dix romans nationaux, sont presque toujours, alors quand je dis Empire, c'est à la fois Empire multiethnique, mais aussi Empire coloniaux. Les dix romans nationaux sont souvent des romans impériaux, hein, des romans impériaux ethnocentrés en plus, hein, voire racialisés. Hein. Donc cette déliaison entre le lien entre construction de l'État-nation et construction de l'histoire comme discipline qui se veut scientifique, elle s'est enfin, elle s'est déliée, elle est devenue plus difficile à penser, et donc cette question-là me semble assez centrale.
Merci beaucoup, Christian. Anne-Isabelle, Richard.
Merci. En fait, ce qui m'a frappé, et je suis vraiment désolée que je n'étais pas là pour la plupart de la première journée, alors je...
C'est pas terrible.
mais en fait, ce que j'ai entendu aujourd'hui, surtout, c'était que, en fait, on parle le thème de plusieurs types de jeux d'échelle, mais aussi un jeu de perspective. Et comment les penser ensemble, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. Et je crois que cette visite de Senghor à Martinique, c'est vraiment emblématique de mettre ces deux choses ensemble. Aussi de penser au centre et périphérique, de penser aux identités plurielles ou plusieurs identités, et je crois qu'il y a une différence là. Et aussi la même chose pour nations plurielles et plusieurs nations, et comment ça joue dans le temps, chronologiquement, mais aussi au même moment. Comment est-ce que ça peut exister au même temps et de plusieurs perspectives. Et en fait, je crois que vraiment de rassembler des historiens de partout du monde ici ensemble, ça donne vraiment quelque chose. Et c'est un type de conversation mondiale, et c'est un peu le point que Barbara a fait. Je crois que si on met ces plusieurs perspectives en jeu au même temps, on peut vraiment aller en avant. Merci.
Merci, et j'en profite bien sûr pour remercier l'ensemble de nos collègues qui ont fait l'effort de nous écouter la plupart du temps en français et le cas échéant de s'exprimer en français aussi dans le cadre de cette rencontre, ce qui nous avait évité de basculer complètement sur l'anglais. Donc on a essayé de trouver un équilibre de ce type-là. Zrinka, Stahuljak.
Oui, moi j'étais frappée, donc en tant que médiéviste, tout d'abord, j'étais quand même frappée ces deux jours, combien l'histoire ou la question épineuse des échelles, ou du jeu d'échelle, des jeux d'échelle, quand même repose sur la disciplinarité linéaire et moderne. C'est-à-dire que j'ai un bon souvenir, en tout cas dans ma lecture de l'histoire mondiale de la France, qui avait bien dépériodisé, si je peux dire, cette histoire, on va dire, précoloniale et coloniale, puisque on ne s'arrêtait pas en 1453, ni en 55, ni en 92, ni en 1517, on s'arrêtait avec Descartes. Et de la même manière, même pour la Révolution française, qui n'était pas une date, mais on s'arrêtait, je crois, en 1793. Donc, je me demande si on... En tout cas, ça, c'est la réflexion que je vais continuer. Pour moi, dans mes travaux, c'est cette histoire donc, que je pointais avec 1492, c'est que le colonialisme ne peut pas être ne devrait peut-être pas être le seul prisme ou le prisme principal des histoires globales, ni d'ailleurs l'État-nation. Je pense que notre collègue Alessandro, dont j'oublie le nom de famille, je m'excuse, Stanziani avait déjà été le premier à en parler hier, en passant des régions du régionalisme à l'internationalisme, en disant la nation, c'est quand même bizarrement le centre. Alors, l'histoire coloniale est certes l'une des voies d'accès au global, hein, je ne dis pas qu'elle ne devrait pas exister, mais elle n'en épuise pas les possibilités. Je pense que si ça reste la voie principale, on risque quand même de renforcer de nouveau cette chronologie eurocentrique que l'histoire globale se donnait comme tâche à dépasser. Et Pour mon propre travail aussi, ça veut dire que ce que j'ai vu beaucoup, c'est que l'histoire globale quand même continue à privilégier les connexions, les circulations, les intégrations, les influences, etc., à l'échelle du monde, bien sûr, mais que l'histoire mondiale, telle qu'on pourrait la concevoir, quand même désigne une démarche beaucoup plus large. Hein, elle pourrait être attentive aux comparaisons, aux résonances structurelles, aux formes de commensurabilité ou non-commensurabilité entre des mondes. Et tout cela ne se ferait donc pas par la contiguïté des lieux ou la continuité dans les temps, c'est-à-dire le déplacement ne serait pas de déplacer à un ailleurs, que ce soit géographique ou temporel, mais encore une fois, je rejoins ici la pensée de Bernard, c'est-à-dire par le biais des conceptualisations, même quand elles se ressemblent ou quand elles diffèrent. Donc voilà, ça c'est une histoire mondiale telle que je la conçois et c'est ce que je garde ces deux journées ici. Merci.
Merci beaucoup, Zrinka. Donc Francisco Bettencourt. Bon. Non, ou Elisabeth, comme vous voulez. Peu importe.
Voilà. Je crois que ce que je retiens, c'est le rôle central de la nation dans la réflexion historique de l'Europe, curieusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup en dehors de l'Europe, justement ancré dans le livre édité par Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France. Ces deux jours ont été très importants pour moi pour réfléchir mieux sur le devenir de l'histoire. Pour moi, c'est le déplacement curieux de la centralité européenne vers la centralité de la nation, provoquée par les développements politiques et par l'émergence de l'extrême droite partout et qui veut manipuler l'histoire, qui veut une certaine narrative de l'histoire et qui veut placer la nation de nouveau au cœur de l'histoire. Donc c'est un moment intéressant parce que l'eurocentrisme semble prendre la place derrière pour le débat historiographique. Et c'est la centralité de la nation qui occupe les historiens, ou quelques historiens, qui sont préoccupés par cette vision étroite, je dirais clairement réactionnaire, de retour au passé, de retour au 19e siècle, on le voit partout. C'est une narrative qui prend un retour d'un siècle, deux siècles. Et ça, c'est l'élément plus intéressant et qui m'a fait réfléchir. De l'autre côté, la nation, vue du point de vue nationaliste, est toujours liée à l'impérialisme. Comme disait Christopher Bailey, la séparation entre la construction nationale et l'impérialisme n'existe pas. Et il disait que dans le cas anglais, il allait main en main. Il a complètement raison. Et les nationalistes aujourd'hui, il y a toujours un certain élément impérial. Et on a vu des discussions, même en Inde, la Grande Inde, la Grèce, la Grande Grèce. Donc, il y a toujours un certain, même s'il ne risque pas de dire qu'il faut réoccuper les anciennes colonies, ce serait un peu trop, il y aurait des morts, mais il y a cette manipulation de la mémoire pour mobiliser les gens avec un rêve de grande France ou de grand Portugal ou de grande Espagne. Il y a un petit peu de rêve impérial. Donc, c'est une nouvelle centralité de la nation qui justifie ses efforts historiographiques de placer la nation dans un cadre global, dans un cadre mondial qui peuvent atténuer ce genre de manipulation idéologique. Mais aussi, il y a quelque chose qui n'est pas là directement et qui passe sans grande discussion, c'est le retour des empires. Et pour moi, le retour des empires est vraiment ce qui est derrière ce mouvement. Et c'est la chose la plus menaçante que nous avons, parce que les empires ont un pouvoir d'intimidation, ont un pouvoir de suppression des communautés locales, un pouvoir de suppression des cultures de toute espèce qui échappent à leur centralité et à leur projet politique. Donc les empires ont des projets politiques beaucoup plus centralisés, beaucoup plus écrasantes écrasants. C'est là que je crois que nous devons encore placer notre réflexion, sans oublier ce mouvement que je crois que ça a été déclenché d'une façon importante, de placer la nation dans un cadre plus vaste pour tempérer ce genre de manipulation.
Merci beaucoup, Francisco. Puis enfin, Elisabeth Leek.
Merci. Je veux assez continuer en français. Merci à vous. Je pense deux choses, mais il y a, je suppose, une grande question. Et ça, à quoi ressemble une histoire mondiale de la France vue de l'extérieur? Ou une autre chose, comment écrire une histoire mondiale de la France, une histoire mondiale d'une autre nation qui utilise des méthodes décoloniales? Et j'ai deux exemples. So, premièrement, comment écrire une histoire du point de vue du Saint-Domingue ou Guadeloupe, Maroc ou Algérie, l'Indochine ou Nouveau-Calédonie, comment est-il différent? Je pense, comme dit Andreas à propos de l'allemand, la violence de l'histoire de la France devient beaucoup plus visible et c'est très important. Mais deuxièmement, j'ai réfléchi à du méthode historique aussi plus grand. Et même avec la table ronde à déseuropéaniser l'histoire du monde, la méthode elle-même reste occidentale. Et il y a une chose avec ça, et que cette histoire est très, très linéaire. Mais si nous utilisons par exemple les traditions de l'Asie, je pense qu'il y a plus d'attention sur la circulaire, et comme Francisco a dit. Par exemple, comme avec la tradition confucienne, l'histoire est plus comme la roue. Il y a beaucoup d'espace pour considérer le progrès et du changement, mais aussi il y a plus d'espace pour réfléchir à ce qui est répliqué. Et je pense que la question de la réplication, c'est très important. Comme Francisco a dit, avec le retour d'empire et choses comme ça.
Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, on voit qu'il y a des échos entre vos interventions sur le fait que les structures de raisonnement en fait restent en dépit de leur volonté de se décentrer, puissamment informées par des modes d'interprétation et d'analyse héritée. C'était un des arguments forts de Jack Goody dans le vol de l'histoire, où finalement le vol de l'histoire c'est aussi l'imposition de manières de penser celle-ci, et vous avez insisté plusieurs d'entre vous sur la question de la linéarité ou la question d'une forme d'eurocentrisme. Donc c'est aussi un regard autocritique que vous nous adressez à travers vos diverses interventions. Mais la deuxième question que j'aimerais vous poser, avant que tout le monde puisse s'épanouir en plein air, à la fin de ces deux jours de colloque, c'est une question très simple. Et maintenant? Maintenant, qu'aimeriez-vous faire ce colloque où on a beaucoup parlé d'histoire plurielle, partagée, n'a pas pour vocation seulement de se clore sur lui-même, mais aussi de stimuler en vous des projets, des désirs, d'initiatives individuelles et collectives. Et la question serait simple, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de faire après ça, sur différents plans qui peuvent être intellectuels, pratiques, institutionnels, de développement personnel. Libre à vous d'intervenir sur le sujet que vous souhaitez. Mais donc voilà, pour aussi avoir une dimension un peu prospective. Et je vais peut-être reprendre par Christian qui a eu le temps d'y réfléchir puisqu'il est intervenu en premier.
Non, alors j'avais pensé effectivement, mais tu en as parlé, la question des échelles. Je prendrais peut-être un autre thème où c'était un peu ma dernière phrase dans mon intervention. C'est le problème du terme engagé, hein, qui était très utilisé, l'engagement, par rapport au contexte mondial hein, que Francesco a rappelé, hein, qui est quand même inquiétant, avec cette montée des nationalismes ethniques. Je pense que ce serait... j'aimerais bien qu'il y ait une rencontre, mais justement de plusieurs pays, sur cette question-là, comment ça se pose avec les différents contextes, parce qu'évidemment chaque engagement est situé. Et comme je le rappelais, hein, je parle un peu en ancien franc, je parlais de la fonction sociale de l'histoire, hein, une vieille question. Et le terme que utilisait Fèvre, je l'aime bien, il dit c'est un aspect inquiétant. Et donc j'aimerais bien que on s'interroge un petit peu sur cette inquiétude et en même temps sur cette nécessité. Hein, qui a été vraiment réaffirmé fortement avec l'histoire mondiale de la France.
Merci beaucoup. Anne-Isabelle.
Oui, en fait, mon idée, ça vient de ce que je viens de dire avant, mais aussi ça porte aussi de la direction dont vous avez parlé, et c'est en fait de continuer la conversation. Et en fait, vraiment la continuer aussi pour le futur, et ça veut dire créer un espèce de réseau mondial pour des jeunes chercheurs, pour se rencontrer à travers plusieurs années, pour vraiment échanger, discuter leurs propres travaux, mais aussi vraiment cet échange de perspectives. Et en fait, j'ai un peu d'expérience sur cela dans un réseau plus restreint, mais ça fonctionnait très très bien. Et puis, si on fait quelque chose comme ça pour des jeunes chercheurs, des doctorants avancés ou bien juste après, ça peut donner aussi quelque chose pour le futur et vraiment de lier des gens des plusieurs continents, pour utiliser ce mot, ou bien des mondes, des océans, peut-être, et vraiment penser le futur. Et on avait déjà en parlé un petit peu au déjeuner, et on a déjà des idées comment on peut utiliser quelques réseaux qui existent entre nos institutions et puis en élargir.
Merci beaucoup. Zrinka.
Je vais donner une double réponse. D'abord, je voudrais remercier Francesco d'avoir fait une excellente analyse de la tension centrale de ces deux journées entre donc un barrage à cette impérialisation nouvelle par l'idée de la nation, et d'autre part un appel à une autre possibilité de narrativiser l'histoire et de la raconter, donc de dépasser ces cadres, parce que je pense que le pouvoir de l'histoire n'est pas uniquement à réagir comme c'est nécessaire, hein, c'est ce que vous avez dit, c'est absolument nécessaire, mais aussi d'imaginer. Et donc moi je dirais que la résistance est aussi dans la construction d'un nouveau commun qui passe donc par ces autres conceptualisations, ces nouvelles catégories par lesquelles on peut penser le monde. Et ça, c'est le pouvoir de l'histoire. Donc ce que peut l'histoire, pour reprendre la question célèbre de Patrick, c'est ça. C'est aussi c'est à la fois de résister à travers les catégories dont on dispose depuis un bon moment, mais aussi d'aller vers d'autres possibilités de penser ce monde et de transformer ça en une forme de nouveau canon, hein, de nouvelles pensées canoniques. C'est quand même un mouvement, il faut d'un mouvement vaste. Il ne faut pas que des voix isolées. Et pour ma propre action, que sûrement je définirais comme un engagement, mais il s'agit d'action pour moi, où est-ce que j'agis ? J'agis depuis plusieurs années à plusieurs endroits, donc j'ai eu ce grand projet de recherche de la Mellon Foundation pour le comparatisme entre des savoirs autochtones et médiévaux. Je suis aussi directrice de Center for Early Global Studies, donc ça c'était une décision, une volonté de passer de Center for Medieval and Renaissance Studies à Center for Early Global Studies. C'est un changement de paradigme. Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle pour avancer la façon de réfléchir, pas pour réfléchir pour moi, mais pour la forcer à réfléchir avec moi, pour avancer ces systèmes très complexes de comparatisme. Et puis, une dernière action que j'entreprends, c'est je prépare une exposition internationale au Getty Museum de Los Angeles sur la chevalerie, qui alors, s'il y en a un concept qui est vraiment assez traditionnel et réac, c'est bien la chevalerie, mais exactement, il s'agit de penser la chevalerie autrement et de la faire voir autrement. Et donc, ça sera le sujet de cette exposition qui aura lieu à l'été 2028. Donc, c'est la grande exposition du Getty Museum pour les Jeux Olympiques. J'ai l'honneur d'être co-commissionnaire. Et avec tout ça, peut-être un nouveau livre, si j'ai le temps. Voilà.
Merci, on espère la voir un jour en France, alors peut-être après. Merci Zrinka, Francisco.
Bon, je m'intéresse depuis un certain temps à l'inégalité, comme vous avez vu dans ma présentation. Je trouve que la façon d'adresser les problèmes des empires, les problèmes des nations ou de l'interprétation biaisée des nations et des possibilités des nations, une des façons de réagir et de déplacer le débat est de travailler sur l'inégalité. Ça m'intéresse beaucoup. L'inégalité au monde. Parce que moi, je réagis beaucoup à cette idée complètement concentrée sur une partie du monde. Il est vrai que l'Europe et les États-Unis ont produit beaucoup de distorsions et d'oppressions et d'exploitations dans le monde. Mais si nous regardons le monde aujourd'hui, il y a pas mal de distorsions ailleurs. Et si on laisse tout ça développer, il n'y a pas de gain. Donc il faut adresser les problèmes d'inégalité partout. Prenons les causes, prenons les éléments les plus profonds. Dans certains cas, l'expansion européenne a produit pas mal de distorsions et d'exploitation, c'est vrai, mais dans d'autres parties du monde, c'est pas innocent. Et donc, l'inégalité transversale, ça m'intéresse beaucoup. J'ai développé des cours sur la culture visuelle liée à l'inégalité, et les images, je les trouve assez importantes parce que nous vivons maintenant dans une période d'images. Et les étudiants, ils réagissent très bien aux images, ils apprennent à analyser les images d'une façon très vite. Et on peut recueillir des images en Chine, en Japon, dans d'autres parties du monde. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Évidemment, il faut lire, pour moi, ce serait des traductions, mais les images sont là. Et donc, c'est une partie intéressante. D'autre part, les divisions sociales que je trouve qui ont un passé structurel, et j'en ai parlé un petit peu, je crois qu'ils peuvent nous donner, et si elles, on peut élargir le champ aussi, mais elles peuvent nous donner un chantier de travail qui pourrait être vraiment mondial, vraiment comparé et qui pourrait nous mettre à réfléchir sur les formes de changer le monde. Et je suis d'accord sur le problème de l'imagination historique, il y a beaucoup plus à faire. Et donc ça c'est seulement pour moi et pour d'autres, parce que je veux faire du travail d'équipe, une seule partie.
Merci beaucoup Francisco. Et puis le mot de la fin revient à Elisabeth, alors, sans aucune intimidation.
Oui, pour moi c'est juste une chose très petite, mais j'ai discuté avec Pierre un peu, que nous avons dans le Journal of Global History, nous avons une section qui s'appelle Arènes, des arenas in global history. Et je pense qu'il y a ça, c'est peut-être une chose qui peut être ici, parce que j'aimerais bien voir une arena avec les autrices of these books. Sorry, my French is now dying at the end of this day. So I guess a written conversation between the editors of these different books, these different volumes, but also their critics, and thinking about, you know, how do these books, how are they in conversation, how are they not, with short essays, ideally, and we have the space now to publish something like that, both in English, so it's widely available, but I think probably also in the local languages. So that would just be a very small part to add.
Merci beaucoup. Je vais appeler donc Patrick Boucheron pour la conclusion officielle, et donc on retient cet appel à l'imagination historique que vous avez toutes et tous souligné.
Oui, quelques mots, non de conclusion, mais de remerciements sincères à toutes et tous, les participants, le public. C'est vrai que, comme je le disais hier, bien sûr que c'est formidable de continuer et de continuer ensemble et d'imaginer ensemble là une poursuite de ce livre et de ces livres et de ce que ils ont suscité. Mais quand même, quand on y pense, d'une certaine manière, nous sommes déjà comblés. Je ne savais pas qu'un livre d'histoire pouvait faire tout ça. Et je ne cessais durant ces deux jours de m'en émerveiller, et puis surtout d'exprimer ma gratitude. Alors voilà, ça va être un peu long, mais c'est simplement une liste de remerciements. Voilà. D'abord, ce livre, c'était un objet éditorial. Séverine Nickel, notre éditrice des éditions du Seuil, était là ce matin. Ce soir, c'est Séverine Rosco qui était notre attachée de presse, qui a réussi ce qui est aujourd'hui enseigné dans les écoles, hein, c'est-à-dire le lancement de l'histoire mondiale de la France, sans quoi rien de ce dont on a parlé n'aurait été possible. Et je voudrais dire combien ce fut également une aventure d'amitié et de fraternité. Et merci, parce que depuis le début, Nicolas Delalande, Florian Mazel, Pierre Saint-Garavelou et Yann Potin, qui a eu depuis, qui avait un rôle essentiel dans ce livre et qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, ça a été de bout en bout une aventure d'amitié, et qui se poursuit aujourd'hui. Pourquoi elle se poursuit? Pourquoi devrait-elle se poursuivre? Et pourquoi se poursuit-elle ici? D'abord, je le dis d'un mot, ce qui s'est dit dans ce colloque et qui est déjà publié d'une certaine manière, puisque grâce aux régisseuses et régisseurs du Collège de France, tout ça dans quelques jours sera podcastable sur le site. Ce qui s'est dit est trop important, me semble-t-il, pour ne pas nourrir une publication 10 ans après l'histoire mondiale de la France, et qui va donc prendre des formes dont on aura à discuter. Mais je crains fort, les autrices, les auteurs, que vous ayez très vite des nouvelles de nous pour poursuivre effectivement cette conversation. Pourquoi ? parce que ce sentiment d'urgence qui était nôtre entre 2015 et 2017, quand s'est inventée l'histoire mondiale de la France et qui, d'une certaine manière, a circulé en Europe et au-delà, dans les 12 livres dont on a parlé, et les initiatives qui sont encore les vôtres aujourd'hui. La différence entre 2017 et aujourd'hui, c'est que c'est en France qu'on sentait l'urgence et la brûlure de la bascule en 2017, c'est dans le monde qu'aujourd'hui, et toute la teneur de notre discussion l'a montré avec une inquiétante éloquence, c'est dans le monde qu'on le ressent aujourd'hui, ce qui effectivement nous oblige à imaginer d'autres futurs. Alors voilà. Voilà pourquoi, effectivement, j'étais heureux alors que je vous ai expliqué pudiquement pourquoi hier. J'avais jusque-là pas souhaité parler de tout cela ici, mais après tout, l'année prochaine aussi, le Collège de France se posera, comme bien d'autres institutions, la question de savoir de quelle France c'est le Collège. Et donc, par conséquent, il y a aussi une logique à ce que cette discussion ait eu lieu et ait lieu à nouveau, si vous le souhaitez, ici. L'occasion pour moi de terminer tout à fait en disant que c'est, pour cette année, pour ma part, la dernière manifestation publique de mon enseignement au Collège de France, avec Jean-Louis Fassi et Aurélien Peter, qui m'ont accompagné pendant toutes ces années et dont vous avez vu combien ils ont été, avec cette aimable fermeté, efficace bienveillance, les fers de lance de notre rencontre. Je voudrais, en votre nom, les remercier sincèrement et vous remercier toutes et tous, ainsi que le public. Dernière chose, nous n'avons pas encore tout à fait gagné la Coupe du Monde des Nations, mais ça ne saurait tarder. Et donc, on pourrait d'ores et déjà faire la photo de groupe. Hein. Je demanderai donc à ceux qui restent parmi les contributrices et les contributeurs, parmi les oratrices et les orateurs, de bien vouloir monter sur la tribune. Ça vaut aussi pour toi, Florian Mazel, et toi aussi, Pierre Saint-Garavelou, pour qu'on puisse faire la photo. Merci à toutes et tous. Bonne soirée.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.